Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée à l'économie de l'aviation. Hier, nous avons embarqué à bord des toutes premières machines volantes en compagnie de l'historien Luc Robben et du journaliste Michel Polaco. Demain, nous interrogerons le modèle du low-cost en pleine zone de turbulence avant d'ouvrir le débat jeudi sur la privatisation des aéroports français. Mais d'abord, place à un duel au sommet après les deux accidents du Boeing 737 MAX qui ont coûté la vie à 346 personnes en moins de 5 mois. L'avionneur américain va-t-il perdre de la vitesse face à Airbus? Quels sont les atouts et les faiblesses des deux géants à l'heure où le marché chinois en plein essor aiguise les appétits? Va-t-on assister à la fin du duopole? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir sur le duel industriel qui oppose Boeing et Airbus en compagnie de Marc-Daniel Seffer, maître de conférences en sciences de gestion à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et co-directeur de cet ouvrage, L'aéronautique mondiale, acteurs et stratégie, paru aux éditions ESCA. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Nous avons décidé en urgence l'interdiction de vol de tous les Boeing 737 MAX 8 et MAX 9. J'ai parlé à la ministre des Transports, à la direction de l'aviation civile et à Boeing. Ils sont tous d'accord. D'accord avec le fait que tous les Américains et tous les voyageurs doivent être en sécurité. Boeing est une compagnie incroyable qui travaille vraiment dur dans l'espoir de trouver une solution.
Bonjour Marc-Daniel Seffer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez reconnu la voix de Donald Trump qui a annoncé la suspension des vols des Boeing 737 MAX aux États-Unis 3 jours après le crash qui a coûté la vie à 157 personnes le 10 mars dernier en Éthiopie. Alors les appareils sont toujours cloués au sol et vendredi, Boeing a annoncé qu'il allait réduire de près de 20% la production du B737. Cette crise risque de coûter cher à l'avionneur américain, mais pour autant, elle ne devrait pas remettre en cause le duopole existant depuis la fin des années 90, Marc-Daniel Seffer?
Il y a un consensus, j'ai interrogé des pilotes, des ingénieurs, d'autres collègues économistes qui travaillent dans mon laboratoire à Toulouse. On pense que tous qu'il va y avoir un impact à court terme, effectivement, mais qu'à long terme, il n'y aura pas une remise en cause de ce duopole qui est effectivement assez ancien, sachant que je peux l'expliquer, il n'y a pas de remplaçant pour le moment au Boeing 737 MAX. Donc Boeing va sans doute souffrir, sa réputation évidemment est écornée, mais il n'y a pas, fondamentalement on est tous d'accord, à long terme de remise en cause de ce duopole du fait de ces accidents qui était prévisible.
Alors quand vous dites pas de remplaçant, ce que vous voulez dire c'est que à court terme, le concurrent Airbus n'a pas les moyens d'augmenter la production de ses avions afin justement de conquérir de nouvelles parts de marché?
Non, ça n'est pas possible pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez que l'A320neo a été lancé avant le Boeing 737 MAX et tous les spécialistes ont été très surpris de la rapidité avec laquelle Boeing a mis en place des études qui ont abouti à ce nouvel avion. Mais Airbus, qui a énormément de commandes, a un gros problème de production. Ils ont extrêmement du mal eux-mêmes à assurer leur cadence, parce que l'industrie aéronautique, c'est très complexe. L'avionneur conçoit l'avion, mais il ne le fabrique pas. Mmh. Et donc, il faut assurer les grands équipementiers, les grands sous-traitants, et ils doivent avoir les capacités de production nécessaires. Ce qui n'est pas du tout évident.
Ça n'est pas le cas aujourd'hui, on le comprend. Mais alors, vous parlez tout de même de conséquences économiques à court terme pour Boeing. Est-ce qu'on arrive à se rendre compte de ce que ça pourrait représenter? Ça dépend évidemment combien de temps les B-737 restent cloués au sol.
Alors, vous savez, il faut savoir que tout est très, très opaque dans cette industrie. Et qu'il y a toujours des communications des avionneurs qui, de manière un petit peu vulgaire, on pourrait dire, essaie d'enfumer l'opinion. Mais le terme, je pense, est assez adapté. Donc, il y a un grand, grand brouillard. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Je dirais qu'il y a une boîte noire. Donc, les conséquences, pour le moment, on ne les connaît pas. On a vu qu'il y avait une réduction des cadences de Boeing.
Parce qu'il faut quand même rappeler que le 737 MAX représente 64% de la production totale en volume prévue jusqu'en 2032.
Oui, effectivement, c'est un marché énorme. Mais qui peut remplacer Boeing sur ce segment de marché? Si vous voulez, on pourra regarder un petit peu ce qu'on appelle les entrants potentiels.
Alors, on va revenir effectivement sur les concurrents potentiels et puis les nouveaux concurrents qui pourraient arriver sur le marché dans quelques années. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un instant sur les deux accidents, donc en mer de Java en octobre et en Éthiopie en mars. Ils étaient liés au logiciel anti-décrochage MCAS. Et alors, la question, c'est ce que révèle ce problème technique, Marc-Daniel Seffer. Est-ce que Boeing a brûlé les étapes pour rattraper son retard sur Airbus?
Oui, alors je suis obligé. Dans l'industrie aéronautique, on est obligé de refaire un petit peu d'histoire sans remonter comme hier à Clément Ader. Il s'agit bien de comprendre que Airbus, avec son A320, a révolutionné le monde aéronautique, puisque c'est le premier avion à commande électrique. Bon, pour faire simple, le pilote ne commande plus vraiment, il n'y a plus de commande hydraulique. Et l'A320 est apparu au début des années 80 et a eu un succès énorme. Face à ça, le Boeing 737 est un très vieil avion. Il est apparu en 1967, donc bien avant, mais j'en ai parlé avec des techniciens. C'était déjà un avion relativement ancien. Il reprenait l'essentiel du tri-réacteur Boeing 737. Vous savez que moi, il y a un moteur, mieux c'est. Et donc, cet avion, de fait, sa conception essentielle, c'est les années 60.
Donc il arrive au bout des modernisations possibles.
Oui, on peut très concrètement dire les choses. Le nouveau moteur qui fait la différence, vous savez que ce qui fait la différence entre les avions, entre autres, c'est les moteurs. Les motoristes, donc Safran, en relation avec General Electric, en coopération, a lancé un nouveau réacteur extrêmement novateur en termes techniques, avec... Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Une soufflante. Quand vous allez en aéroport, vous voyez derrière l'avion, derrière le réacteur, il y a des hélices qu'on appelle la soufflante qui fait pénétrer l'air. Or, les soufflantes, les nouvelles soufflantes du nouveau réacteur, LEAP, sont beaucoup plus grandes. On a tous été très étonnés que Boeing arrive à mettre ce réacteur. On disait, mais ils ne vont pas arriver, il faut qu'ils conçoivent un nouvel avion. Non. Ils l'ont mis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont mis le réacteur plus en avant. Bon, il n'y a pas besoin d'être très très bon physicien pour savoir découvrir que ça déséquilibre l'avion.
Et donc, il a fallu trouver un mécanisme pour le rééquilibrer.
Tout à fait. D'où ces logiciels anti-décrochage. Je fais très simple, c'est plus complexe. Mais il faut bien comprendre que Boeing est une entreprise extrêmement traditionnelle dans l'innovation. Ils ont été obligés de se réveiller à cause d'Airbus. Mais leur 737, finalement, il rapporte énormément d'argent. Et ils n'ont pas été prêts à lancer un nouveau moyen courrier faisant face à la 320. Et donc, c'est le système même avec, je termine, la pression des marchés financiers. Parce que Boeing est une entreprise capitaliste classique. Contrairement à Airbus, c'est plus complexe.
Et alors, ce qu'on se demande, Marc-Daniel Seffer, vous nous avez bien dit qu'il n'y avait pas de remplaçant immédiat. Mais alors, tout de même, est-ce que ces crashs sont susceptibles de remettre en cause la confiance des compagnies aériennes vis-à-vis de Boeing? On voit que c'est avec Airbus que la Chine vient de passer une commande de 300 appareils ce mois-ci. Alors même que les appareils, un certain nombre d'appareils de Boeing sont cloués au sol.
Oui, alors une petite remarque, c'est que ces A320 MAX, comme les autres A320, sont assemblés en Chine. Donc c'était une des stratégies d'Airbus que de faire fabriquer, du moins de faire monter ces avions. Donc ça, c'est un plus énorme.
Mais donc ça n'a rien à voir avec les difficultés actuelles de Boeing, cette commande qui vient d'être passée.
Alors évidemment, comme je vous disais, c'est un monde très opaque où il faut beaucoup se méfier de la désinformation. Mais a priori, il y avait cette usine qui était là avant. Airbus a mis d'énormes moyens pour que cette usine de montage puisse monter en puissance. Alors, par rapport à votre question, on peut dire qu'il n'y a pas, d'entrant potentiel. Je peux vous expliquer, si vous voulez, pourquoi. Faisons un peu le tour du paysage aéronautique mondial. Il y a deux constructeurs, Bombardier, canadien, et Embraer, qui font ce qu'on appelait des commuters, qui sont juste en dessous des Boeing 737 et des Airbus, un petit peu en dessous. Mais ils sont tout à fait capables, techniquement, de faire un moyen courrier. Simplement, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers et industriels pour répondre au marché. Ceci dit, ils sont bons. Troisième constructeur potentiel, c'est évidemment, vous pensez, Comac, les Chinois. Alors, évidemment, vous allez dire, je porte un jugement de valeur, mais ce que j'en ai entendu dire des professionnels, c'est que c'est un bon avion, mais un avion qui a 20 ans. C'est-à-dire, ils sont en train, évidemment à terme, ils le feront, de rattraper Airbus, mais il leur faudra encore du temps.
Alors, on va revenir sur tous ces éléments, parce qu'on ne va pas aller trop vite en besogne, je vous en prie.
Oui, parce que c'est très important. L'Union soviétique disposait d'une industrie aéronautique remarquable. Elle a été démantelée du fait que les républiques fédérées sont parties. C'est extrêmement dur. Donc, on se trouve en une situation où ils sont capables, il ne faut pas les mépriser, de sortir des nouveaux prototypes extrêmement bons. Rapidement, même maintenant. Ils ont la matière grise. Simplement, vu l'état de la Russie, ils ne sont pas capables de produire des avions de qualité, vous savez, c'est du sans faute.
D'où l'idée d'une alliance, justement, entre la Russie et la Chine.
Alors, voilà. Est-ce que ça va marcher? Les Chinois, eux, ils sont capables. Ils sont capables à la fois de concevoir et de fabriquer. Alors, vous avez raison. À terme, il pourrait y avoir une alliance. On a essayé de deviner les alliances potentielles. Et c'est pour ça, sans doute, que Airbus aussi se place comme allié, contrairement à Boeing.
Vous avez commencé, Marc-Daniel Seffer, à revenir un petit peu en arrière dans l'histoire et revenons encore, si vous le voulez bien, aux origines justement de ce duopole. C'est dans les années 70 qu'Airbus va commencer à concurrencer Boeing.
L'industrie aéronautique en France comme ailleurs connaît-elle et connaîtra-t-elle une passe un peu délicate? Je crois qu'il ne faut pas se laisser aller et que nous ne devons pas, et aujourd'hui c'est encore plus vrai qu'hier, nous en remettre complètement aux Américains du soin de nous fournir des avions. Nous avons une industrie aéronautique qui est importante, qui est de bonne qualité, et nous devons la maintenir dans l'intérêt des Français et dans l'intérêt de la France.
Le ministre français des Transports, Yves Guéna, en 1974, pas question alors pour la France, comme pour l'Allemagne, de laisser le marché de l'aéronautique aux États-Unis, Marc-Daniel Seffer.
Alors là, votre document, il est remarquable, parce que il dit tout. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus d'industrie aéronautique française. Il y avait évidemment en Europe les Anglais et les États-Unis. Donc il s'est posé la question de savoir si on allait reconstruire une industrie aéronautique. Et nous avons fait le choix. Un choix qui entraînait, qui était basé sur un consensus politique très très large. Les gaullistes, mais aussi le PC, la CGT et d'autres. On s'est dit, voilà, c'est une industrie de souveraineté, doublement de souveraineté, pour des raisons militaires, mais aussi parce que c'est de la haute technologie. On ne peut pas dépendre des anglo-saxons. Bien évidemment, les soviétiques, ils n'allaient pas nous vendre des avions. Et voilà comment on a essayé de leur construire. Et Yves Guéna, il parle très bien, effectivement. Il y a eu une volonté, moi j'appelle ça le colbertisme aéronautique, de même que Colbert, après la fronde et puis les guerres contre l'Espagne, a dû reconstruire une marine marchande et une marine militaire qui n'existait plus. De même, ici, on a reconstruit à peu près avec les mêmes méthodes, en combinant à la fois action de l'État directe et aussi aide aux initiatives privées. Donc le plus célèbre, c'est Marcel Dassault, mais il y en a bien d'autres. Une industrie aéronautique qui, vous le savez, grâce à la coopération avec l'Allemagne et puis aussi les Anglais après, a pu faire parité avec les Américains.
Alors
qui ne s'y attendaient pas.
Comment s'organise cette concurrence? Comment est-ce qu'elle va monter en puissance? Effectivement, le français aérospatial et l'allemand Deutsche Airbus, se regroupent en 1970, mais Boeing a été fondé, lui, en 1916 par William Edward Boeing. Donc c'est une beaucoup plus ancienne entreprise. Et c'est la mise en vente de l'A300 en 1972. 300B, qui va être une innovation majeure à ce moment-là, Marc-Daniel Seffer.
Je vais revenir un peu sur ce que vous disiez. Boeing, c'est une vieille entreprise, mais pendant longtemps, c'était pas du tout la majeure. Pour faire très très vite, même un peu caricatural pour les spécialistes, ils ont profité de deux choses. Premièrement, du fait que c'était un constructeur militaire. Vous savez, les débats qui financent quoi? Bon, on peut dire que dans le complexe militaire ou industriel, Boeing est financé grâce à des études qui sont celles du Pentagone. Donc, par exemple, on peut utiliser ce qu'on a trouvé dans un avion militaire, dans un avion civil. Et puis, la deuxième chose qu'il faut rappeler, puisqu'on parle d'accident, c'est que les Britanniques, en 1952, ont lancé un avion remarquable, révolutionnaire, le premier avion commercial à réaction, puisque les Anglais voulaient revenir sur le marché des longs courriers, et donc, ils ont dû faire une innovation, ce que nous, en économie, on appelle une innovation radicale, une innovation majeure.
Mais cet avion n'a pas réussi à trouver sa place.
Mais non, c'est passé autre chose. Vous savez que quand on fait une innovation radicale, on est confronté à deux incertitudes radicales. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout ce qui va se passer. La première, elle est technique. On ne connaît pas, on n'a pas les connaissances scientifiques sur l'état des matériaux, les fluides. Or là, dans cette première échec, tout simplement, on n'a pas compris que... En transformant un tanker, je fais très rapidement, hein, des avions qui étaient des avions qui volaient haut, mais qui n'avaient pas de hublot, on ne connaissait pas les phénomènes de pression, pour faire très simple, à très haute altitude. Et le Comet, il a éclaté en vol. Les hublots ont sauté. Et Boeing a profité de cette erreur, entre guillemets, on ne pouvait pas faire autrement, des Britanniques.
Et en même temps, ça va être seulement à partir de la sortie de l'A320 qui est mise en service en 1988 qu'une concurrence véritablement sérieuse va apparaître pour Boeing.
Oui, alors il faut vous rappeler je vous ai dit que Boeing n'était pas vraiment un constructeur majeur. Il y en avait d'autres. Il y avait, pour faire simple, deux autres constructeurs importants, mythiques. Douglas, avec le fameux DC-3, DC-6, DC-7, et Lockheed avec le superbe Super Constellation, un avion de rêve. Mais ces avionneurs n'ont pas vu arriver le réacteur. Ils sont reposés sur leur laurier. Bon, Boeing, c'était un peu la même chose, mais comme ils étaient le troisième, il a fallu qu'ils innovent. Donc, première étape, les deux constructeurs autres que Boeing aux États-Unis ont peu à peu disparu. Bon, je fais simple.
Boeing a notamment racheté McDonnell Douglas en 97. Et c'est à ce moment-là qu'on estime qu'il y a un duopole qui apparaît.
C'est ça. Et il faut rappeler une chose très importante. C'est l'importance tout de même de ce qui s'est passé avant Airbus. Nous avons, je vous l'ai expliqué, dès la libération, dans une situation de consensus national, reconstruit une industrie aéronautique. Mais ça a été très difficile, techniquement. Et aussi d'un point de vue commercial. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est un bel avion que vous avez déjà vu voir, la Caravelle. C'était la fierté de la France gaulliste. Et ce magnifique biréacteur, en nacelle derrière, il volait très bien. Le problème, et ça c'est la deuxième question, c'est qu'il ne faut pas vendre que des beaux avions, il faut des avions adaptés au marché. Or, pour des raisons d'arrogance d'ingénieur, on n'a pas adapté la Caravelle au besoin du marché.
Et c'est ce qu'Airbus a réussi à faire, s'adapter au marché.
Il y a une deuxième chose. Je fais simple, parce qu'il y a d'autres exemples. C'est Concorde. Je vous ai expliqué que la première incertitude, c'était sur l'état physique. Comet n'y est pas arrivé, de Havilland. Mais par contre, Concorde, ça a été un succès technique remarquable. Oui, il y a eu des accidents, mais à la fin, pour des raisons contingentes, bon, même si ça a été dur. Donc, c'était un avion techniquement réussi, simplement.
Commercialement, un échec.
Il faut pas refaire l'histoire. À l'époque, il était très difficile de savoir que le public n'admettrait plus le bruit, que le coût du kérosène augmenterait. Donc, c'est facile à dire. Concorde, ils étaient idiots. Non, ils n'étaient pas idiots.
Mais justement, là, on voit les échecs qui ont pu jalonner l'histoire de l'aéronautique. Mais alors, qu'est-ce qui explique que Airbus ait réussi? Sur quoi repose sa stratégie?
Eh bien, justement, c'est pour ça que je vous ai parlé des exemples de Caravelle et de Concorde. C'est parce qu'il y a eu un apprentissage, qu'on pourrait appeler l'apprentissage par les échecs. Les Français ont appris comment il fallait lancer un nouvel avion adapté au marché. Ça a été très difficile, il y a des grands hommes, et bon, on ne peut pas s'y citer tous, mais c'est Henri Ziegler, qui était un très grand patron. Et il y a eu énormément de travail qui a été fait pour rectifier cet avion, qui au début était un avion qui n'était pas vraiment adapté. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en anglais, on dit un wide body large, très large, avec deux réacteurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moins d'un réacteur, c'est mieux. Et au début, personne n'en voulait. Personne. Dans le métier, on appelle ça des queues blanches. Donc, rester à Toulouse, malheureusement. Et on va parler de Boeing. Il y avait une compagnie célèbre à l'époque, qui malheureusement a disparu, Eastern Airlines, qui était dirigée par un cosmonaute, Borman, qui était un homme non conformiste. Et il en avait assez de l'arrogance de Boeing. Qu'est-ce qui a perdu en partie Boeing? C'est son arrogance. Et donc, il a acheté, dans des conditions extrêmement particulières, les nouveaux avions, les A300B, parce que la 300 a été modifiée. Et voilà. Et c'est parti comme ça.
Et après, c'était à partir seulement de 2003 que Airbus va livrer pour la première fois plus d'appareils que Boeing. Et c'est en 2007, je finis ce petit historique, que Airbus se lance dans le marché des gros porteurs avec l'A380 censé concurrencer le 747. Mais ce qu'on voit, en tout cas Marc-Daniel Seffer, c'est que Airbus et Boeing se livrent bataille depuis plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, le marché semble parfaitement divisé en deux. Les volumes de commandes sont relativement équivalents.
Oui, alors vous savez, je vous expliquais qu'il fallait se méfier, j'ai parlé d'enfumage, on pourrait dire désinformation, de la communication des deux grosses entreprises. À chaque salon, ici à Paris, mais aussi en Angleterre, Farnborough, ils annoncent qu'ils sont les meilleurs. Bon, alors il faut regarder de manière très... sans entrer dans les détails techniques. D'abord, c'est pas le nombre d'avions qui compte. Un A380, si je me rappelle, soit autour de 4 à 320 ou peut-être plus. Donc, faut regarder déjà le prix. En plus, le prix d'un avion, c'est extrêmement opaque. Il n'y a pas de vrai prix.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Airbus et Boeing s'équilibrent relativement aujourd'hui?
C'est très difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même histoire, pas du tout la même culture. C'est vraiment deux mondes différents, deux visions du monde aéronautique différents.
C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché mondial, vous avez Boeing et Airbus qui tiennent le marché. Ça s'explique en partie parce que le ticket d'entrée pour lancer de nouveaux modèles, c'est de l'ordre de 10 à 15 milliards de dollars. C'est là où on est dans les prix de lancement de l'A350, du 787, du 777 de Boeing, de l'A380, avec des prix de départ qui généralement augmentent de 20% parce qu'il y a des dépassements. Donc le ticket d'entrée financièrement est assez élevé. Technologiquement, il est aussi très élevé parce que il suffit pas de concevoir l'avion du 20e ou du 21e siècle. Il faut aussi avoir derrière des effectifs de techniciens, d'ingénieurs, d'ouvriers spécialisés. Donc vous avez ces deux gros mastodontes qui entretiennent des filières universitaires, technologiques et tout un tissu d'entreprises, PME, PMI et toutes petites entreprises.
Bruno Lancesseur, le rédacteur en chef du site d'information en ligne Aérodéfense News, au micro de Florian Delorme sur France Culture. La domination du marché de l'aéronautique par Boeing et Airbus est loin d'être remise en cause aujourd'hui, Marc-Daniel Seffer.
Bon, comme toujours, il faut être très très prudent quand on fait des prévisions à long terme. Sur le court terme, je vous l'expliquais, effectivement c'est très difficile. Mais il faut que je vous rappelle que l'avionneur, encore une fois, il ne fabrique très peu de choses. Un avion, parlant pas trop charabia, c'est un méga système qui est composé de systèmes. De systèmes, je prends un exemple, c'est les réacteurs, on dit motoristes, les trains d'atterrissage, les systèmes électroniques. Et ça, nous on appelle ça des firmes pivots. C'est des firmes qui sont la taille des avionneurs. Et puis ensuite, vous avez des grands équipementiers. Et puis, vous avez toute une chaîne de sous-traitance extrêmement spécialisée. Et on a les exemples comme Hutchinson qui fabrique des joints. Et c'est extrêmement difficile. Vous pouvez pas remplacer des joints. Or, ce qui se passe, vous l'avez vu, c'est que Boeing, de fait, leur problème, eh bien, pèse sur les grands firmes pivots, les équipementiers, les sous-traitants de l'Europe.
C'est-à-dire?
Dans un Boeing, vous avez énormément de systèmes, de sous-systèmes, de pièces qui ne sont faites, qui sont faites en Europe. Et évidemment, la crise de Boeing, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne fait pas du tout plaisir à l'industrie aéronautique française. Vous avez bien vu, on communique pas du tout dans... Oui, oui, c'est bien fait. Non, non, pas du tout.
Après, c'est une interdépendance qui est inhérente à la mondialisation, en l'occurrence.
C'est... Je ne vous rejoindrai pas. Parce que... Il y a une partie de vrai, mais disons, c'est surtout la manière dont on conçoit et on fabrique un avion. L'avionneur conçoit l'avion, il l'adapte au marché, mais ensuite, bon, il travaille en coopération.
Oui, vous nous expliquiez, pour préparer cette émission, que finalement, les avionneurs ne fabriquaient que 10% de la totalité de l'avion.
Tout à fait, tout à fait. Bon, après, ils sont en amont, puis ils sont en aval. Et puis le reste. Et puis, dernière chose très importante, c'est que, on a remarqué, il y a un de mes collègues qui m'a dit de Toulouse que la mauvaise réputation d'un grand avionneur, ça avait une influence sur l'ensemble de l'industrie. Vous avez bien vu dans l'industrie automobile, la question du diesel, tout le monde est suspect. Et là, effectivement, c'est pas bon du tout pour Boeing non plus.
Si je vous comprends bien, on ne peut pas parler véritablement d'un duopole, ou alors pas aussi facilement que cela, parce que justement le pouvoir des avionneurs est contrebalancé par l'importance considérable des partenaires qui fabriquent les composants de l'avion.
J'irai même plus loin, si vous voulez. Il y a effectivement la dépendance en amont. Les entreprises dont on vient de parler, mais aussi en aval. Ce sont les compagnies aériennes. Elles sont énormes. Vous avez les compagnies aériennes en partie. Bon, vous en avez trois en faisant extrêmement simple. Vous avez les compagnies aériennes historiques. Vous avez les compagnies low cost. Et vous avez les loueurs d'avions. Et ces gens-là sont très puissants. Et d'ailleurs, je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on peut pas connaître le vrai prix d'un avion. C'est top secret. Il y a des négociations extrêmement opaques qui fait qu'on ne sait pas. Donc, ils ont un rapport de force qui leur est n'est pas défavorable.
Et alors justement, cette concurrence a des effets, et notamment, il faut sans cesse innover davantage. Et ce qu'on constate, c'est que les deux avionneurs, Boeing et Airbus, consacrent une bonne partie de leur chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est absolument fondamental.
Ah ben oui, vous ne pouvez absolument pas rester compétitif si vous n'innovez pas. L'innovation, elle porte sur énormément de choses. Moi, je mettrais l'accent sur l'innovation sur les matériaux. Vous savez qu'un avion, son gros problème, c'est la loi de la pesanteur, c'est Newton, c'est le poids. Comment diminuer le poids d'un avion? Et d'ailleurs, Boeing a connu d'énormes déboires avec ce qu'on appelle les composites. Si vous voulez, je peux vous expliquer ces composites, c'est
Allez-y.
Un terme. Alors, composite, de fait, c'est extrêmement vieux. Un violon, si vous jouez du violon, c'est déjà du composite, c'est-à-dire qu'on met des bois différents. Bon, là, il s'agit de matériaux que on pourrait comparer à du tissage. Ça ressemble beaucoup quand on y va. Moi, je suis allé à Marignane voir un atelier de fabrication de composites. Ça correspond à des fibres de nature différente qu'on croise selon ce qu'on veut faire, ce qu'on veut que ce soit rigide, souple. C'est extrêmement innovant parce que c'est très léger. C'est très solide et on peut leur donner toutes les formes qu'on veut. Je vous parlais du LEAP, les soufflantes, les pales
que
tout le monde voit.
Eh
ben maintenant, elles sont en composite. Mmh. C'est-à-dire qu'on a effectivement fait des progrès énormes grâce aux composites. Simplement, je vous disais, innovation radicale. On ne sait jamais où on va.
Alors, on va voir dans un instant quelle est justement la place de l'État face à ces avionneurs et quels sont aussi les challengers potentiels.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité. C'est drôle, non plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lancent de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers un déjà? Si tu penses.
buée d'azur aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de tes nuésures, chimères, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boeing à Paris et tes mouvements en fond de majesté. Boeing, Boeing à Paris, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses Boeing à Paris et tes mouvements en fond de majesté. Boeing, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à ton cœur, enfin comme un vieil éléphant, à gauche à l'est, enfin, enfin comme un vieil éléphant.
Boeing de Feu Chatterton sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Marc Daniel Seffer est toujours avec nous en studio pour parler de la bataille industrielle que se livrent Boeing et Airbus. Et alors, ce qui explique également la pression concurrentielle du marché de l'aéronautique, c'est le fait que ce sont des industries duales, vous l'avez dit, à la fois civiles et militaires, ce qui pose la question de la place de l'État vis-à-vis de ces entreprises, Marc Daniel Seffer.
Bah, y a un lien extrêmement, disons, incestueux, pour utiliser cette expression, entre l'État et l'industrie aéronautique. Vous voyez bien que si on n'a pas d'industrie aéronautique, on n'a pas de défense nationale autonome. On voit bien que même un petit pays comme Israël s'est doté d'une industrie aéronautique pour assurer sa défense, en particulier en inventant les drones. Et on peut faire le tour du monde en divisant les pays qui ont une industrie aéronautique autonome et ceux qui ne l'ont pas. C'est pour ça que, d'ailleurs, que par exemple le gouvernement brésilien a fait créer Embraer dans les années 60.
Et alors justement, les avionneurs sont peut-être d'autant plus dépendants de l'État que comme on le voyait, les investissements de départ dans cette industrie sont particulièrement élevés. Vous parliez tout à l'heure de colbertisme, Marc Daniel Seffer. Comment ce soutien de l'État se manifeste concrètement, si on parle de l'Union européenne et d'Airbus par exemple?
Il se caractérise d'abord en amont par les instituts de recherche et développement. De recherche plutôt fondamentale, excusez-moi. La recherche et le développement se fait plutôt à l'intérieur des entreprises. Alors, nous avons en France créé, après la Seconde Guerre mondiale, un magnifique institut qui s'appelle l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aéronautique et peut-être Spatiale, je ne me rappelle plus. Et vous avez aussi, dans les universités, des laboratoires qui travaillent pour l'industrie aéronautique. Donc déjà, l'appareil de formation, parce qu'on forme aussi les gens, et l'appareil de recherche, il est très très lié à l'État. Mmh. Les entreprises commandent des études en partenariat avec donc les partenaires de recherche, comme l'ONERA et les universités.
Donc bon, il y a l'aspect effectivement recherche, et puis il y a aussi des subventions directes.
Alors ça, c'est un sujet très délicat et très opaque.
Alors, d'autant plus délicat, effectivement, qui fait l'objet d'une bataille juridique entre Airbus et Boeing depuis 15 ans devant l'OMC.
Pour y démêler, je vais être très clair, ça n'est pas clair, c'est le cas de le dire. Ça n'est pas clair du tout et j'ai essayé d'étudier, par exemple, dans un domaine très précis, les hélicoptères, comment ça s'était passé. Alors, je vous donne notre point de vue, mais avec beaucoup de circonspection. Je suis très très circonspect, je fais très attention et peut-être que des gens vont dire voilà, ce qu'ils racontent n'est pas aussi vrai que ça. En simplifiant, l'industrie aéronautique, c'est une industrie qui a un horizon temporel très très long. Aucune entreprise privée ne peut assurer cet horizon temporel. Une entreprise capitaliste classique, il faut qu'elle ait un retour sur investissement assez rapide. C'est impossible. Il y a d'autres industries comme ça.
Mais alors, est-ce que l'Organisation mondiale du commerce, face à ce genre de situation, prévoit des exceptions, justement?
encore là, je soupire parce que c'est d'une opacité extrêmement grande. Et souvent, c'est un, comme on dit, un jeu de faune. On crie au libéralisme économique quand on en a besoin, et on crie au protectionnisme et à la souveraineté quand on en a besoin. Alors, en faisant extrêmement simple, les Américains accusent les Européens d'avoir fait des prêts bonifiés, donc des prêts à très beau taux très très bas. Bon, et les Européens disent, bah oui, mais vous financez ça directement par la recherche et développement du Pentagone, qui est infiniment un budget, qui est infiniment plus grand que le ministère de la Défense.
Donc on voit que chacun se renvoie un petit peu la balle, mais de toute évidence, du côté de Boeing comme du côté d'Airbus, on bénéficie d'aides réelles à part de l'État.
Et vous prenez les Chinois, c'est exactement la même chose. Les Russes, bon, les Soviétiques autrefois, c'est la même chose. L'Inde, Israël, tous les pays qui ont une industrie aéronautique, évidemment, c'est une industrie de souveraineté. C'est le terme qu'il faut, comme la marine du temps de Colbert. Voilà.
Et alors, face à ces changements et ces évolutions possibles, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché et quels sont notamment les avions qui sont les plus demandés par les compagnies aériennes, puisqu'on sait que Airbus avait misé sur la 380 en pensant que les hubs allaient se développer.
Voilà. Donc, il faut revenir. Alors ici, on a la radio, on peut pas faire de dessin, mais en faisant simple, vous voulez aller de San Francisco à Toulouse. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode qui est la méthode hub, en-road, road, ça veut dire les moyeux. En gros, pour parler simple et concret, vous allez de San Francisco à New York en moyen courrier, un A320 ou un 737. Ensuite, vous prenez un très gros porteur entre New York et Charles de Gaulle. Et après, vous reprenez un moyen courrier entre Paris et Toulouse. Vous avez bien sûr voyagé en avion. Vous savez bien que ce qui est horrible, c'est le temps d'attente dans les aéroports. Mais Airbus a pensé que c'était tout de même l'avenir. Alors, ils n'ont pas pensé tout seuls. Il y avait les compagnies d'Extrême-Orient et aussi du Moyen-Orient qui leur ont dit, alors je fais un peu simple, qu'il y avait une explosion de la demande, que les aéroports étaient saturés, que donc ils avaient besoin de très gros porteurs. Et donc, ils se sont lancés dans la 380. En n'oubliant pas une chose, c'est que c'est pas une industrie uniquement politique, industrie de souveraineté, mais c'est aussi une industrie symbolique. C'est-à-dire que le fait que les Européens ne faisaient pas de très gros porteurs, que c'était le monopole, sur ce créneau-là, on n'y était pas encore, de Boeing, qui en plus faisait des marges, puisqu'ils étaient énormes, puisqu'ils étaient en situation de monopole, pour Airbus, c'était vraiment dire, voilà, maintenant on n'est plus les petits que vous méprisez, et on est sur le gros. Mais ça n'a pas marché, parce que ce qui a marché, vous savez, alors en anglais on dit point to point, en français c'est simple, hein, c'est point à point, ben vous prenez un très long courrier de capacité moindre, et vous l'amenez de San Francisco à Toulouse.
Et c'est ce qui marche mieux aujourd'hui, et c'est ce qui explique aussi que l'A380 soit arrêté. Enfin, les dernières livraisons sont prévues pour 2021.
Oui, alors je peux vous en parler, on en a discuté avec mes collègues, à la fois qui sont dans l'industrie, et puis mes collègues universitaires de l'Université de Toulouse. L'A380 n'est pas fini, à mon avis. Bon, c'est une hypothèse que je vais lancer.
Pour quelle raison?
Je peux vous dire que, en gros, effectivement, pour le moment, l'A380 ne correspond pas à la demande, comme on dit, du marché.
Notamment parce que Fly Emirates a diminué largement ses commandes.
C'était c'est sans doute parce que le taux de remplissage, vous savez qu'un avion doit être rempli. Et le génie d'Airbus, ça a été justement de moduler ces A320. Vous avez déjà pris un moyen courrier qui s'appelle l'A318. De fait, c'est un A320 à qui on a coupé deux tronçons. L'A319, un tronçon. L'A321, on en a remis un. Et là, Airbus veut remettre un nouveau moyen courrier A320 qui va être finalement, qui va plus être un moyen courrier, mais sur la base de la cellule actuelle. C'est-à-dire qu'avec un avion, vous en faites 6 ou 7 et vous adaptez aux compagnies. Mais là, l'A380, moi, ce que je vois un petit peu, et c'est évidemment une prévision hasardeuse, dans 20 ans, on pourra venir me voir en me disant que je m'étais complètement trompé. Bah, évidemment, c'est sûr. Mais il faut prendre le risque. Je pense que l'A380 est un avion magnifique. Si vous l'avez pris, je sens aucun chauvinisme. Ça n'a rien à voir avec les autres avions. Bon, il faut l'adapter au marché, peut-être le raccourcir, peut-être mettre deux moteurs, parce que c'est ça le problème. Si vous avez deux moteurs, c'est beaucoup plus économique. Il y a beaucoup moins de traînée, moins d'entretien, tout ça, qu'un quatre moteurs. Donc, moi, je fais l'hypothèse que l'A380 n'est pas mort. Sous sa forme actuelle, oui.
Et ce qu'il faut dire, c'est que le paysage industriel et commercial est en train de changer, a commencé déjà à changer depuis un certain temps avec l'explosion de la demande asiatique et notamment chinoise. Et c'est une demande qui devrait continuer à augmenter fortement dans les 20 ans à venir.
Bien sûr.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel investissent d'ores et déjà beaucoup les avionneurs. On sait que Airbus et Boeing se disputent le marché chinois.
Oui, alors, vous parliez de l'échec de l'A380, à mon avis, provisoire. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que Airbus essayait de faire son A380, pour des raisons économiques, mais aussi de prestige, Boeing se lançait sur le point-to-point, point à point. Donc, vous imaginez bien que faire un avion beaucoup plus petit, très longue durée, eh bien, il faut le faire léger. Donc, ils ont commencé et ils voulaient le faire beaucoup plus rapide. C'est un projet qui n'a pas abouti. C'était un avion subsonique et ils ne sont pas arrivés à le faire. C'était au-dessus des compétences techniques qu'on maîtrise aujourd'hui. L'état de la nature, l'état de la physique. Ils sont rabattus sur un autre projet moins ambitieux, mais déjà un avion novateur, le 787. Le 787, il l'appelle le Dreamliner, avion de rêve. Alors c'est un avion qui est parti il y a relativement longtemps, mais qui a connu énormément de problèmes. Je vous ai expliqué avec le Comet, quand on fait des innovations radicales, mais on ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, on ne savait pas faire des grandes pièces de composite. On savait faire des pales en composite pour les hélicoptères ou des morceaux, mais pas. Et donc ça retardait énormément la livraison de ces avions. Et heureusement, Airbus a profité, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, pour faire un avion, il faut énormément de compétences techniques, il faut énormément d'hommes, il faut énormément d'argent. Ils ne pouvaient pas mener de front l'A380 et un autre avion. En faisant simple, quand ils ont terminé les études sur l'A380, ils ont pu lancer les études sur l'A350, qui est sorti finalement pas beaucoup de temps, mais qui a cannibalisé l'A380. C'est un gros problème. La réussite de l'A350, c'est en partie au détriment de l'A380.
Et alors, je voudrais revenir, Marc-Daniel Seffer, justement, sur l'augmentation de la demande et sur le fait que, justement, face à cette augmentation, d'autres acteurs pourraient venir se positionner sur ce marché. Écoutons d'abord le PDG de Boeing France, Yves Galland. Il était sur France Inter le 13 juin 2015.
Dans les 20 ans qui viennent, nous allons doubler la flotte mondiale. Pourquoi ? Parce que vous avez une augmentation de 5% de passagers par an. Cette année, ce sera de l'ordre de 6 à 6,5. Parce que les compagnies aériennes ont besoin d'avoir des avions modernes comme le Dreamliner, 787 Dreamliner, parce qu'ils consomment beaucoup moins et qu'ils sont plébiscités par les passagers. Il ne peut rien nous arriver, sauf de ne pas exécuter. C'est là-dessus que nous concentrons pour livrer dans de bonnes conditions les avions à nos clients. Nous allons vendre 38 000 avions dans les 20 ans qui viennent. Le principal marché, c'est l'Asie-Pacifique, avec environ un peu plus de 14 000 avions, qui sont suivis à peu près à égalité par l'Amérique du Nord, un petit 8 000, et l'Europe, 7 500 environ.
Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez de ces estimations, Marc-Daniel Seffer? Et voilà, est-ce qu'on se dirige vers la fin de ce duopole avec des avionneurs comme le brésilien Embraer? On sait que par ailleurs, Airbus a racheté la branche C-Série de Bombardier qui était en difficulté.
Oui, oui. Alors, il faut distinguer, disons, pour faire simple, le court terme, le moyen terme et le long terme. Sur le court terme, personne n'est capable de remettre en cause le duopole, parce qu'ils ne sont pas capables, vous l'avez expliqué, il y a un coût à l'entrée énorme. Pas uniquement financier, mais d'expertise. C'est extrêmement complexe. Je vous dis, c'est un méga système, un avion.
Et alors, à moyen terme ?
À moyen terme, ça peut bouger un peu. Et à long terme, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Chinois, ils ne sont plus au moment de la guerre de l'opium en 1848. On ne veut pas leur imposer un produit qu'ils ne veulent pas consommer. Eux, ils veulent un produit qui soit effectivement bon et que ensuite, ils fabriquent eux-mêmes. Donc, sur le long terme, il n'y a aucune raison que les Chinois, la Comac, et peut-être d'autres pays, d'autres grands pays qu'on va voir émerger, ne fabriquent pas des avions de très haut niveau.
Mais ça devrait prendre combien de temps, selon vous, Marc-Daniel Seffer? Parce que le C-917, justement, de l'avionneur chinois Comac, a réalisé son premier vol en 2017, mais depuis, il a pris beaucoup de retard. Mais et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va réussir à voler en Chine, et alors en Europe et aux États-Unis, la question est encore plus lointaine.
Bon, on peut imaginer que ça, c'est un galop d'essai. Ils avaient déjà fait quelques avions, mais c'est déjà un avion qui va être honnête. Ensuite, peu à peu, ils vont faire un avion de niveau standard. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont pénétrer sur le marché avec un avion radicalement différent? Et je prends un exemple, un avion radicalement différent, c'est, en Seconde Guerre mondiale, je fais très vite, le Mosquito, c'était un bombardier qui a surpris complètement les nazis, parce qu'il était en bois. Vous vous rendez compte, un avion en bois, ça complètement, il allait très très vite. Évidemment, les chasseurs allemands ne pouvaient pas les rattraper, ni la flak, alors que le concept, c'était des gros bombardiers lourds. Eh bien, je fais l'hypothèse que, comme le Mosquito, il y a donc 50 ans, 60 ans, même maintenant plus, eh bien, les Chinois rentreront vraiment dans le marchand en faisant une innovation radicale.
Cette concurrence, en tout cas, de la Chine, inquiétait déjà Louis Gallois, l'ancien PDG d'Airbus. Il s'exprimait en 2012.
Maintenant, clairement, ils nous disent « marché en main ». C'est la technologie que nous voulons. Et vous continuerez à vendre des avions en Chine à la mesure des transferts de technologie que vous réaliserez. Ils ne se contentent plus des savoir-faire. Et là, évidemment, on rentre dans une zone beaucoup plus périlleuse. Voilà ce que je voulais donner comme exemple de type de progression de l'industrie chinoise qui va devenir le premier marché d'Airbus progressivement à la fin de la décennie. Pour les moyens courriers, son concurrent.
Voilà, la Chine bénéficie des transferts de technologie dans l'aéronautique comme dans d'autres secteurs, Marc-Daniel Seffert.
Oui, alors je suis content d'entendre Louis Gallois, parce que c'est l'exemple du très grand patron. Un homme modeste, efficace, pas comme d'autres, hein, qui accumule des fortunes, honnête, et avec une clairvoyance incroyable. Et on lui doit énormément. Énormément à la SNCF, bon, c'est une autre industrie très complexe. Et évidemment, il a été patron de l'aérospatiale. Et quand ça allait mal, quand les Brothers Boys s'étripaient, hein, eh bien, c'est lui qui a redressé la boîte. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment parole d'or.
Et en l'occurrence, ce qu'on sait, c'est qu'Airbus a installé une chaîne d'assemblage directement en Chine. Et c'est par ce biais qu'il pourrait y avoir un certain nombre de transferts de technologies.
Alors, c'est très compliqué parce que assembler un navire, c'est la même chose. Ça n'est pas fabriquer les pièces de base, les sous-systèmes, les systèmes et les méga-systèmes. Pour le moment, les Chinois vont assembler sur les standards européens des Airbus. Un Airbus qui va être fabriqué à Shenzhen, pas loin de Pékin, va être le même niveau que celui qui est assemblé à Toulouse ou à Hambourg. Et ça, c'est déjà remarquable. Je ne suis pas sûr que tous les pays aient les capacités de faire ça. Évidemment, nous avons, Airbus a envoyé des équipes, expatriation de longue durée, pour former des gens, et ils sont toujours dépendants. Mais il ne faut pas mésestimer, évidemment, la capacité des techniciens, des scientifiques chinois à pouvoir se passer de nous.
Et alors, il y a aussi d'autres obstacles qui se dressent sur la route de la Chine. C'est la certification. Le C919 va devoir obtenir la certification de l'Union européenne et des États-Unis pour pouvoir voler hors de la Chine. Et là, on voit qu'il y a un enjeu important pour la Chine, c'est de faire reconnaître son autorité nationale de certification au niveau mondial, de la même façon que le sont reconnues mondialement les autorités européennes et américaines.
Tout à fait. La certification, c'est essentiel. Vous rappelez que Concorde n'a pas pu voler aux États-Unis. Si on vous empêche de voler, le marché est perdu. Ça n'a pas été la cause principale, mais ça a joué. Quand les Américains ont voulu empêcher à tout prix les Européens, les Franco-Anglais plutôt, de pénétrer sur le marché du supersonique qui aurait complètement mis en cause la suprématie américaine.
Alors, je voudrais qu'on finisse cette émission avec les innovations, encore une fois. Et vous avez parlé tout à l'heure du moteur LEAP qui a été mis au point par Safran et General Electric. Et en effet, l'une des difficultés auxquelles le transport aérien fait face, c'est le fait qu'il est de plus en plus critiqué pour la pollution dont il est responsable. Et donc, d'où la nécessité d'innover afin de fabriquer des moteurs moins polluants.
Le moteur LEAP est un moteur dont le taux de dilution est augmenté, c'est-à-dire que pour obtenir la même poussée, on va capter un peu plus d'air et on va l'accélérer un petit peu moins, ce qui permet d'améliorer sa performance en consommation de carburant, diminuer son bruit. Alors, pour compenser cette augmentation de taille du moteur, qui permet cette amélioration des performances, on a utilisé pour ce moteur LEAP des matériaux composites très sophistiqués qui sont formés de fibres de carbone tissées les uns par rapport aux autres, ce qui leur donne une beaucoup plus grande cohésion, une beaucoup plus grande résistance. on a levé, grâce aux matériaux composites légers, un verrou qui nous empêchait de faire des moteurs plus gros. Et on est capable de proposer des moteurs plus gros, beaucoup plus performants, mais pas plus lourds.
Voilà, Vincent Garnier, directeur de stratégie chez Safran, dans le magazine de la rédaction sur France Culture. Et donc, ce que l'on constate, Marc-Daniel Zéfer, c'est qu'il y a à la fois de nouvelles contraintes techniques, mais aussi de nouvelles contraintes en termes de pollution. Il faut aussi travailler vers une plus grande acceptation sociale de l'avion, et ça entraîne la nécessité de nouvelles innovations.
Alors oui, c'est évident. Alors, bien que je travaille sur l'industrie aéronautique, je considère qu'il faut réfléchir à la complémentarité, on dit des fois l'intermodularité, ça fait un peu savant, entre les moyens de transport. Regardez l'Europe. L'Europe, nous avons construit, il faut continuer à le faire, un réseau de transport de vitesse, à grande vitesse, TGV, ICE, etc., qui est remarquable. Ce qui fait, on l'a bien vu, beaucoup de lignes aériennes ont disparu. C'est pollué beaucoup moins vite, et de centre à centre, ce qui est important, vous allez aussi vite. Donc, il faut réfléchir effectivement à cette première chose. Là où le ferroviaire est plus performant en termes de vitesse, d'écologie et peut-être de coût, que, alors c'est très compliqué les histoires de coût, que l'avion, ben, il faut mieux qu'il y ait des lignes ferroviaires. C'est justement de l'État à choisir des options.
Mais ça explique cette pression accrue sur les avionneurs et l'invention qu'a constitué ce moteur LEAP qui est censé polluer environ 16% de moins que les moteurs précédents.
Oui, c'est évident que ça joue, mais il y a le problème du coût de fonctionnement. Il consomme moins, il fait beaucoup moins de bruit, et plus il est très sûr, il est léger. Donc il a tout bon cet avion, ce moteur d'avion. Mais en même temps, vous voyez bien que même si c'est un moteur extrêmement innovant, c'est pas une innovation radicale, c'est toujours basé sur les mêmes principes de fonctionnement des réacteurs. N'oubliez pas qu'en gros, depuis le comète, on vole à peu près à la même vitesse. Simplement, les réacteurs sont de plus en plus efficaces. Évidemment, le basculement, ce serait d'autres formes d'énergie. Mais là, on est dans les innovations très, très radicales où on sait pas encore grand chose. Si vous prenez, vous le connaissez bien, je crois que c'est Picard, le descendant du fameux Picard, qui a volé sur un avion très léger, le Solar,
Solar
quelque
Impulse.
Chose, voilà. Bon, il est merveilleux cet avion. Puis de voir le petit-fils du professeur Tournesol, qui a servi de modèle à Tintin, faire une telle révolution, c'est très très agréable. Simplement, c'est un démonstrateur. Ce qui ne veut pas dire que dans 50 ans, ce ne sera pas des techniques qu'on est en train de chercher, qui remplaceront les moteurs, les turbomoteurs qui sont propulsés par du kérosène.
Eh bien, ce sera le mot de la fin et ce sera l'occasion de vous réinviter pour en parler à nouveau dans quelques années. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le départ controversé du PDG d'Airbus Group, Tom Enders.
Mais oui, une annonce qui a fait beaucoup de bruit, car loin de quitter l'habitacle en toute discrétion, Tom Enders a décidé de s'envoler vers d'autres cieux à bord d'un parachute en or massif. L'Assemblée Générale d'Airbus, qui se tiendra demain à Amsterdam, devrait ainsi valider l'attribution d'une enveloppe de près de 37 millions d'euros à son ancien président directeur général. C'est en tout cas l'analyse qu'effectue le cabinet de conseil Proxinvest, spécialisé dans l'analyse des rémunérations des grands dirigeants. Ainsi, le cabinet estime que Tom Enders aurait droit à une retraite de 26,3 millions d'euros sur 20 ans. Une coquette somme à laquelle s'ajoute l'attribution d'actions, pouvant lui rapporter plus de 7 millions d'euros en l'état actuel du cours d'Airbus. Enders devrait enfin bénéficier d'une clause de non-concurrence, compensée par une indemnité de 3,2 millions d'euros. En clair, on paye l'ancien patron d'Airbus pour qu'il ne vende pas au plus offrant tous ses secrets dès son départ de l'entreprise. Tom Enders a néanmoins renoncé à toute prime de départ, nous voilà rassurés.
Et rien n'est fait pour empêcher ce type de pratique, hein, Jonas ?
Non, rien. Alors même que le candidat Hollande promettait lors de la campagne de 2012 de limiter les écarts excessifs de rémunération au sein de l'entreprise, cette promesse fut rapidement enterrée par le président Hollande. S'il a consenti à limiter la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques à 450 000 euros annuels, le gouvernement s'est contenté pour le privé d'en appeler à une autorégulation des entreprises cotées. En clair, ce sont les actionnaires qui votent en se référant à une charte de bonne gouvernance élaborée par les organisations patronales elles-mêmes. Mais dans le cas d'Airbus, la question est encore plus complexe car par un tour de passe-passe juridique, l'entreprise Airbus, pourtant détenue historiquement par l'État français et allemand, est sise aux Pays-Bas. Il faut dire que la météo fiscale y est particulièrement favorable. Toujours est-il que grâce à cette immatriculation néerlandaise, le groupe Airbus peut appliquer la législation associée et attribuer à Tom Enders la rémunération qui lui convient sans les maigres contraintes du système français.
En réalité, de nombreux observateurs critiquent l'inadéquation entre cette retraite hors norme et le bilan pour le moins mitigé de l'ancien PDG.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Certains accusent même Major Tom d'avoir sciemment affaibli Airbus au profit de son concurrent américain. C'est ainsi la thèse d'un article de Marianne intitulé « Comment l'oncle Sam a mangé Airbus » et dans lequel le journaliste Emmanuel Lévy raconte une succession de faits pour le moins troublants qui auraient conduit à un affaiblissement de l'avionneur européen. Il revient bien entendu sur sa décision plus que controversée de mettre fin à la commercialisation de l'A380 au nom d'un prétendu aggiornamento industriel qu'il cède en réalité le champ libre à Boeing en matière d'innovation et de conquête. Il rappelle également comment l'ancien PDG s'est attaché à détricoter les systèmes de recherche et de financement de l'avionneur européen au nom d'une prétendue indépendance vis-à-vis des États. Mais il retrace surtout l'atlantisme affiché de Tom Enders qui s'est entouré systématiquement d'une équipe d'anglo-saxons plus ou moins proche des intérêts de Washington. Dénomination discrète en décision douteuse, le journal retrace comment la présidence de Tom Enders a entraîné un basculement des forces vives d'Airbus de l'autre côté de l'Atlantique.
Cette retraite dorée serait donc d'autant plus problématique que Tom Enders ne l'aurait franchement pas mérité.
Oui, mais il faut faire attention à ce type de conclusion qui pourrait laisser entendre qu'il serait légitime pour le meilleur des capitaines d'industrie de toucher une telle somme. À l'heure où les citoyens en France comme ailleurs réclament plus de justice fiscale, ce type de rémunération apparaît à la fois anachronique et profondément inique. Reste à savoir si le gouvernement se contentera de son habituel froncement de sourcils ou s'il s'attaquera enfin à ce véritable enjeu de cohésion sociale.
On se quitte avec Aviation des Last Shadow Puppets. Merci beaucoup Marc-Daniel Seffer de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Metke Chidi, l'aéronautique mondiale, acteurs et stratégie, paru aux éditions ESCA. Demain, on se demandera pourquoi le low cost a trouvé sa forme la plus aboutie dans le transport aérien. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.